Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Il n'y aura donc pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Décision irrévocable, a assuré mercredi Édouard Philippe à la télévision. Un peu plus tôt, le Premier ministre, entouré de plusieurs membres du gouvernement, avait fait connaître ses arbitrages. Moment très attendu, non pas tant en raison de la nature de la décision, l'abandon était l'option la plus probable, que du temps qu'il aura fallu pour qu'elle soit prise. Pour ceux qui croyaient ou faisaient mine de croire à l'avènement de cet aéroport, la décision prise par l'exécutif relève à la fois de la faiblesse, de la trahison et du déni de démocratie. Faiblesse face à ce qui est considéré comme une minorité agissante, les occupants de la ZAD. Trahison par rapport aux engagements pris par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Déni de démocratie dans la mesure où une majorité de votants avait dit oui au projet lors du référendum départemental de 2016. Dans l'autre camp, on souligne au contraire que cette décision, sans être pleinement satisfaisante, était la seule raisonnable. Qu'il s'agit de réorienter le projet initial vers une dimension plus régionale en englobant l'agglomération de Rennes dans l'aménagement aéroportuaire. Qu'enfin et surtout, les chefs de l'État et du gouvernement ont su faire preuve d'autorité en la matière, contrairement à leurs prédécesseurs, car gouverner, c'est choisir. Alors Notre-Dame-de-Landes, est-ce que gouverner, c'est choisir ? Eh bien, c'est autour de cette question que nous allons discuter ce soir en compagnie de trois des membres du club. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
La suite dans les idées, c'est tous les samedis à 12h45 sur France Culture et dans une semaine désormais, le lancement du site AOC. Avec vous et avec nous, Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous animez les idées sur la toute jeune web télé Le Média qui a été lancée en début de semaine. Ça se passe bien pour l'instant ?
Très bien. Épuisant, mais on est content.
Et vous venez de publier La pensée en otage aux éditions Les liens qui libèrent. Et puis, troisième membre du club présent ce soir, Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Le tour du monde des idées, c'est du lundi au vendredi sur France Culture à 11h53. Vous avez publié aux éditions de l'Observatoire, il y a quelques semaines de cela, Macron, un président philosophe. Alors, pour démarrer la discussion et pour savoir d'où chacun parle, petite question, j'aimerais savoir, à titre personnel, les uns et les autres, si vous étiez plutôt favorable, plutôt défavorable à ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou bien si vous étiez sans opinion. Brice Couturier, je commence par vous.
Je vais vous répondre d'une manière qui va vous surprendre. Les Chinois sont en train de construire sur la mer d'Oman une ville de 200 000 habitants qui était un village de pêcheurs. Ils veulent la construire en 10 ans. Il y aura 200 000 habitants, une usine de montage photovoltaïque, une usine de montage automobile et bien sûr des raffineries pétrolières. Ils montent en même temps les Chinois à Korgos, en plein milieu du Kazakhstan, en plein désert, une ville qui là aussi aura probablement 200 ou 300 000 habitants en 10 ans. Et nous, il a fallu 40 ans pour ne pas décider de construire un aérodrome à Nantes. Donc j'ai l'impression qu'on ne vit pas vraiment synchrone avec le monde qui nous entoure. J'ai l'impression qu'on est complètement déphasé.
Alors,
et c'est ça qui m'attriste le plus dans toute cette affaire.
En effet, vous me surprenez d'autant plus que vous ne répondez absolument pas à la question que je vous ai posée. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez pour, contre ou bien vous n'aviez pas d'avis ce qui me concerne, par exemple, je n'avais pas d'avis tranché sur le sujet.
Écoutez, hier, j'étais scandalisé. Aujourd'hui, je le suis moins parce que j'ai lu quelques articles et entendu quelques informations qui me laissent à penser qu'effectivement, cet aéroport était déjà dépassé. Quand vous pensez qu'il va y avoir entre Los Angeles et San Francisco un hyperloop qui va faire relier ces deux villes en moins d'une demi-heure, et c'est une question d'années, on se demande à quoi sert effectivement de construire encore des aéroports. Et c'était effectivement une décision qu'il fallait prendre dans les années 70, mais aujourd'hui, c'est trop tard.
Aude Lancelin, est-ce que vous allez nous emmener en Chine, à Los Angeles, pour répondre à cette première question ?
Non, tout d'abord, j'observe que Brice Couturier est tellement macronien que quelle que soit la décision prise par son gourou, il la suit dans les 24 heures. Bon, c'est une parenthèse. Non, moi, évidemment, j'étais très heureuse de cette décision qui salue tout de même, qui est la victoire d'une lutte inouïe, hors norme, sur plusieurs dizaines d'années. Et j'étais d'autant plus heureuse de ça que je redoutais un drame, voilà, et que nous échappons donc à une solution par le conflit et la violence, ce qui est toujours une bonne chose.
Quand vous dites je redoutais un drame, c'est-à-dire en faisant référence, par exemple, à ce qui a pu se passer au barrage de Sivens avec la mort d'un des occupants.
Voilà, cette victoire-là des écologistes est entaché par la mort d'un jeune homme, Rémi Fraisse, hein, au barrage de Sivens, ailleurs, dans les Landes, mais aussi dans une zone à défendre. Je crois que ce spectre-là est une des raisons qui a fait reculer le gouvernement. Et c'est une bonne chose.
Si Sylvain Bourmeau habitait la Loire-Atlantique au moment du référendum en 2016, est-ce qu'il se serait rendu aux urnes? Et si oui, est-ce qu'il aurait voté pour ou contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes?
J'habite toujours un peu la Loire-Atlantique. Je suis né à Nantes, j'y ai grandi jusqu'à mon bac, jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est une ville qui m'est chère, donc je connais bien, j'y retourne souvent. Donc je connais assez bien le dossier. Je le connais assez bien parce que j'ai pris des avis aussi auprès de gens qui habitent dans l'agglomération nantaise depuis longtemps, depuis très longtemps sur ce dossier. Personnellement, j'étais opposé à la construction de cet aéroport, à rebours donc de la position de tous les responsables politiques, locaux quasiment, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et donc je me réjouis de cette décision. Et là, je suis d'accord avec Brice pour m'étonner du temps qu'il a fallu. Mais c'est le sujet de l'émission de ce soir. C'est-à-dire que c'est assez incroyable parce que pendant ce temps très long qui s'est écoulé entre le moment où certains ont eu ce projet à une époque très ancienne aujourd'hui, qui nous semble très ancienne, les choses ont beaucoup changé à propos de l'environnement, à propos de l'aménagement du territoire. Et c'est comme si, au fond, deux temporalités étaient mêlées. Et là, on a enfin cassé ce lien, ce qui est la meilleure des choses à faire. Mais c'est un beau cas d'école, enfin, d'une certaine façon.
Mais cela dit, ce temps-là, ce temps extrêmement long, si on se réfère au début du projet, c'est-à-dire il y a 50 ans, il n'est pas seulement le fruit de l'indécision politique. Il y a eu un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été menées, qui faisaient que, de toute manière, il ne pouvait pas y avoir de décision. Est-ce que, malgré tout, ce qu'il faut retenir d'abord, ce que vous retiendriez d'abord, c'est justement le fait que une décision a enfin été prise, Brice Couturier?
Oui, on va encore me traiter de macronien de l'étape, mais comme Aude Lancelin vient de le faire. Mais effectivement, ça fait effectivement deux quinquennats qu'on traînait ce boulet et qu'on n'arrivait pas à décider. Là, en 8 mois, il y a une décision. Encore une fois, à mon avis, elle survient beaucoup trop tard. Mais enfin, le problème, c'est les procédures qui alourdissent de manière extravagante la prise de décision dès qu'il s'agit d'une infrastructure un peu importante dans notre pays. Je voudrais juste faire remarquer une chose. Vous avez deux systèmes. Vous avez un système scandinave dans lequel, en amont, on prend toutes les précautions. Et une fois que la décision est prise et qu'elle est assumée par le gouvernement, elle est mise en exécution immédiatement. Vous avez un système anglo-saxon où c'est le contraire. Où en amont, il y a très peu de procédures, mais où en aval, il y a énormément de possibilités pour quiconque de faire des recours en justice et ça fait traîner. Nous, on a cumulé les deux problèmes. Vous comprenez, alors il y a la Commission nationale du débat public, il y a le schéma de cohérence territoriale, les études d'impact, il y a la conformité avec les lois, il y a la protection des espèces rares, etc. Ça prend des dizaines d'années. Pendant ce temps-là, encore une fois, les Chinois construisent des villes de 200 000 habitants en moins de 10 ans. Ça suffit, quoi. Il y a un moment ou un autre où, effectivement, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. En matière d'aménagement du territoire, c'est vital.
Ça veut dire que pour vous, Brice Couturier, on a trop consulté sur cette question et ça fait traîner les choses
parce je dis juste, comme Guillaume Poitrinal, à qui j'ai emprunté cette idée, qui est un promoteur qui avait écrit un bouquin très intéressant chez Grasset, qui expliquait comment, effectivement, la France avait pris un retard considérable en matière d'aménagement à cause de ces handicaps. Je montre simplement qu'il y a un problème français et qu'il y a un retard à l'allumage considérable qui fait qu'effectivement, cet aéroport qui aurait peut-être eu son intérêt il y a 30 ans, aujourd'hui ne l'a déjà plus.
Aude Lancelin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement la durée, la longueur qui a été celle qui a conduit enfin à une prise de décision sur ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, il témoigne d'un problème français, ça serait quelque chose d'assez caractéristique dans le fait de ne pas être capable de prendre des décisions, justement de faire traîner les choses?
Non, moi, cette temporalité, en effet, est extrêmement longue, anormalement longue. J'y vois une autre explication, c'est celle de la prise de conscience écologiste, hein, qui a pris énormément de temps, notamment en France, qui n'est pas du tout aboutie, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Mais il est normal qu'aujourd'hui, en 2018, nous n'ayons pas le même rapport, je ne sais pas, à l'agriculture productiviste, à la nécessité de défendre l'environnement, et au combat environnementaux sous toutes leurs formes, que dans les années 60, tout ça est évidemment a été très long à se mettre en place. Le rapport, là, il y a encore 5 ans, les climato-sceptiques étaient nombreux. Dans le champ intellectuel, maintenant, c'est devenu rarissime. Donc, notre rapport à l'environnement qui nous entoure n'est pas du tout le même. Et dans cette mesure, il est normal que le politique ait mis du temps à l'intégrer dans la décision.
Sylvain Bormeau.
C'est vrai. Et en même temps,
encore un matin,
dans les années 70, il y avait déjà, dans cette région, en tout cas, des contestations environnementales très puissantes contre des centrales nucléaires ou des projets de construction de centrales nucléaires au Pèlerin, au Carnet, en Bretagne, plus loin à Plogoff. Nantes, c'est pas la Bretagne. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tous les cas, il y avait des mouvements écologiques très très forts. D'ailleurs, il y a probablement une culture locale qui est restée et sur la base de laquelle l'opposition à Notre-Dame-des-Landes s'est aussi construite au début. Et une force aussi des partis écologiques sur place assez importante. Donc, bon, voilà. Ça, je crois que, cela dit, c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience plus générale, plus globale qui fait que. Mais en fait, je ne suis même pas sûr qu'il y a 30 ans, cet aéroport était une bonne idée. C'est-à-dire que, en fait. La bonne idée, c'était probablement de se rendre compte, on s'en est rendu compte bien tard, qu'on pouvait parfaitement agrandir l'aéroport actuel de Nantes pour prendre en une part de l'augmentation du trafic. À l'arrivée, Nantes aura perdu beaucoup dans cette histoire, non seulement du temps, mais une ligne à grande vitesse de train, parce que le choix, c'était celui-là. On donne à Nantes l'aéroport et on donne à Rennes la LGV. Et donc, Rennes, aujourd'hui, est beaucoup plus proche de Paris que Nantes. Et voilà, donc le résultat est celui-là. Si on avait réfléchi, et le problème, c'est que la liaison entre Nantes et Rennes est toujours aussi laborieuse. Il faut changer de train à Redon, pensez-vous, il n'y a pas d'autoroute. Enfin, c'est ahurissant que ces deux métropoles qui sont si proches soient aussi mal reliées. Donc, en fait, ça nous renvoie à une question qui est différente un peu de la question environnementale, qui est celle de l'aménagement du territoire, et que j'aimerais relier à la question de la décentralisation. Parce qu'au fond, ce projet, c'est aussi l'histoire des conséquences de la décentralisation, depuis les grandes lois de fer jusqu'à aujourd'hui, et à la difficile imbrication, parfois, de ce qui doit être décidé au niveau national. Et on peut imaginer qu'un aéroport de cette taille, ça concerne pas seulement une métropole, deux métropoles, une région, deux régions, mais l'équilibre territorial global. Et donc, le problème, c'est aussi ça, c'est-à-dire le poids d'élus locaux. Pour poser la question autrement, c'est quand même incroyable que le soutien le plus fort dans le monde politique de cet aéroport, il a été Premier ministre pendant plus de 3 ans.
Jean-Marc Ayrault.
Et il n'a même pas réussi comme Premier ministre à imposer ce projet, à commencer à le construire. C'est donc
Mais alors, justement, sur cette question de la décentralisation, parce qu'effectivement, on peut y voir peut-être une forme de pied de nez adressé justement à l'ensemble des élus locaux, mais pas seulement aux élus locaux, également à la population, c'est-à-dire qui s'est prononcé. Alors, qui est le mieux placé finalement pour décider que ce projet était ou pas intéressant? Il y a eu un référendum départemental, alors avec une participation qui n'a pas été énorme, mais bon, il y a quand même eu 51% de participation. Et le oui à l'aéroport l'a remporté à 55%. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à ce que des élus locaux, dans leur très grande majorité, soient favorables à ce projet, une population est majoritairement favorable à ce projet, et on aboutit à une décision qui vient d'en haut, qui dit non, on arrête le projet, Brice Couturier. Il y a quelque chose qui...
D'abord, le référendum était consultatif. Ce n'était pas un référendum national, c'était un référendum consultatif de la population. Effectivement, la population, dans sa majorité, s'est prononcée à une majorité assez faible, mais une majorité tout de même pour le projet, comme l'ensemble des élus locaux. Ce qui m'a fait changer d'avis entre hier et aujourd'hui, je vais vous dire, c'est entre autres un article très intéressant publié dans le Figaro Vox de quelqu'un qui s'appelle Adrien Dubrasquet et qui a le titre de son papier, c'est Notre-Dame-des-Landes, ainsi s'achève l'âge d'or de la décentralisation. Et ce monsieur nous fait toucher du doigt un phénomène qui a lieu déjà depuis un certain temps, parce que ça a commencé sous François Hollande. Quand François Hollande a supprimé la compétence générale des départements et des régions, quand François Hollande a supprimé Macron supprime pour 80% de la population la taxe d'habitation, c'est l'ensemble de ces mesures dessine effectivement une politique qui est en œuvre de manière souterraine et très discrète, qui est une manière pour l'État saint-simonien, comme on a souvent dit de Macron, de reprendre en main l'aménagement du territoire, parce qu'effectivement, quand on l'a laissé aux élus locaux, ils ont eu trop tendance à considérer les intérêts locaux, ceux de leur ville, plutôt que ceux de leur région ou ceux du département. Là, vous avez une reprise en main de la politique d'aménagement du territoire au niveau central, du chef du gouvernement. C'est très symbolique que ce soit Édouard Philippe qui ait pris le dossier en main. Et je pense qu'effectivement, ça indique quelque chose. Ça indique un tournant dans l'histoire de la décentralisation française, à savoir une recentralisation. Maintenant, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? L'avenir le dira.
Mais en c'est une approche très jacobine et très parisienne, là, ce que vous dites. Et vous, Maurice Couturier, et même Sylvain Bourmeau, est-ce que vous partagez ce point de vue de Lancelin? C'est-à-dire, je trouve ça quand même extrêmement sévère à l'égard des élus locaux. La décentralisation, c'était quand même plutôt vécu comme un progrès, et notamment un progrès démocratique, c'est-à-dire de rapprocher aussi la décision des populations locales. En recentralisant, on l'éloigne à nouveau, la décision.
Oui, non, mais à cet égard, on peut tout de même comprendre l'amertume des Nantais qui ont voté en faveur de l'aéroport et dont ça pourrit le quotidien, bon, de cet enclavement. Mais si vous voulez, quand j'entends parler de déni, de démocratie, à propos de cette consultation référendaire, je trouve ça, je trouve que c'est un regard du passé finalement, parce que justement, ce qui est à travers les ZAD, à travers Notre-Dame-des-Landes, qui est la ZAD historique, c'est la question du sens même de la démocratie qui est posée justement. Est-ce que la démocratie, c'est cette décision majoritaire qui malgré tout s'impose aux populations, ou est-ce que c'est aussi une organisation sur le terrain, une jonction
des avant-gardes éclairées, quoi.
Non,
qui sont en désaccord avec la majorité de la population, mais qui ont raison quand même, parce que
non, mais ils représentent le bon sens écologique. Ça, c'est votre passé et votre histoire, Brice. Mais
non, moi, j'étais pour l'Arzac.
Hein. Il s'agissait d'agriculteurs. On résume ça à une poignée de gauchistes, de zadistes, comme on les a baptisés depuis les années 2010. Mais il y a toutes sortes de gens qui étaient impliqués dans ce combat. Il y avait des juristes, il y avait des agriculteurs, il y avait des citoyens ordinaires. C'est la jonction de toutes ces luttes qui a gagné.
Or, mais quand vous dites que ça appartient au passé, c'est-à-dire une lecture qui appartient au passé, est-ce que vous voulez dire aussi que l'outil du référendum, ouais, par exemple, c'est un outil qui appartient au passé, qui ne permet pas de faire vivre justement la démocratie
et... Mais c'est-à-dire qu'il y a l'idée que tout le monde, et pas seulement les élus, doit participer aux décisions, doit prendre en charge son environnement, une réflexion sur le quotidien. Et c'est vrai qu'à travers cette affaire de Notre-Dame-des-Landes, ça a déjà été dit dans toutes sortes de livres. Il n'y a pas seulement des enjeux environnementaux. Il y a des enjeux sur le démocratique, sur le rapport à la prise de pouvoir qui était posé.
Sur cette question du déni de démocratie que constituerait justement la décision d'abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes.
Plusieurs choses. D'abord, c'est toujours fâcheux quand on organise un référendum et qu'on ne respecte pas le résultat de ce référendum. C'est pas la première fois. Et ça abîme véritablement cette pratique.
On peut même se demander quand est-ce que c'était la dernière fois le résultat d'un référendum a été respecté en France. Spontanément, voilà. Oui, on n'a pas forcément d'exemple.
Il n'y a pas une pratique référendaire non plus très, très importante. On n'est pas en Suisse.
Ouais. On pense évidemment à celui de 2005 sur la Constitution européenne.
Donc voilà, la question c'est... c'est un problème. Après, il n'y a pas... Pour l'instant, on a parlé de deux formes de démocratie, la démocratie référendaire et puis la démocratie sous forme d'expérience sur le terrain, Notre-Dame. Mais il y a quand même une autre forme qui est la principale, qui est la démocratie représentative dans laquelle on vit et qui fait que là, l'autorité politique légitime, élue, décide d'arrêter les frais et d'arrêter ce projet. Ça, c'est la décision de la démocratie représentative. Moi, j'y tiens à celle-là. Elle me paraît la plus importante des trois.
On aurait pu faire voter le Parlement.
Je ne dis pas que les deux autres ne doivent pas exister. Je pense qu'elles sont très importantes aussi.
Si je peux me permettre juste une petite objection, ou en tout cas une petite remarque, Sylvain Bourmont, vous dites la démocratie représentative, les gens qui ont été élus ont pris la décision, sauf qu'ils ont été élus sur une promesse inverse. C'est-à-dire Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, dit « Moi, je vais maintenir le projet ».
Bien sûr, le mandat impératif est interdit. C'est aussi notre pratique de la démocratie représentative. Donc, voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais je voudrais dire une chose qu'on n'a pas soulignée pour l'instant, qui permet de comprendre, à mon sens, la raison pour laquelle les élus locaux, dans leur unanimité quasiment, étaient pour ce projet d'aéroport. La vraie raison, à mon avis, c'est qu'ils voulaient utiliser les mètres carrés de l'actuel aéroport pour continuer l'urbanisation de la métropole de Nantes. C'est cette stratégie de croissance qui a été celle des maires des villes nouvelles, qui a été Jean-Marc Ayrault, élu à 27 ans en 1977, maire de Saint-Herblain, commune rurale, petit bourg dans lequel j'ai grandi, que je connais bien, qui est devenue une ville nouvelle, qui est passée, non pas en 10 ans, de 0 à 200 000 habitants, mais enfin de 0 à 70 000 habitants très très rapidement. Très forte croissance, avec des phases de construction, de ZUP, à côté, enfin, en pleine campagne. Donc, c'est ce cycle-là qui s'est ouvert, je dirais, au milieu des années 70, qui a été porté par une certaine gauche, qui a gagné toutes les municipalités autour de Nantes, puis la mairie de Nantes elle-même, qui voulait continuer à se développer. Parce qu'en plus, plus il y avait de monde sur ces territoires, plus il y avait de circonscriptions électorales aussi. Tout ça s'est développé comme ça. La droite était d'accord, parce que des fois, elle les gagnait, ces circonscriptions, d'ailleurs. Donc, en fait, il y avait une espèce de croissance politique. C'était, on appellerait ça de... Oui, c'est la croissance, comme la croissance économique. Mais il y avait des parts de marché politique aussi à gagner. Et je pense que c'est ça la vraie raison de la construction de cet aéroport dont on pouvait vraiment se demander s'il était fondé depuis très longtemps. Mais sauf que ça ne s'est pas posé en termes nationaux. Après, sur la question de la décentralisation, qui est vraiment majeure, c'est que moi, je pense qu'on peut s'inquiéter du fait qu'il y ait une recentralisation. Mais d'un autre côté, sur un dossier comme celui-là, mon sentiment, mon opinion, c'est que ça dépasse les compétences territoriales. C'est-à-dire qu'on a affaire à une question majeure de l'aménagement d'un pays qui s'appelle la France dans ces cas-là, et que la décision ne peut pas appartenir uniquement ni aux élus locaux, ni aux populations locales.
Mais ça va être quoi alors, les critères pour décider que tel dossier sera un dossier qui devra être décidé au niveau local, c'est-à-dire dans le cadre de la décentralisation, ou un dossier qui devra être d'un point de vue national? Parce que tenir ce type d'argument, ça peut aussi finir par se retourner contre, par exemple, une approche qui prônerait davantage de développement durable, si on considère, je ne sais pas moi, que le projet de centre touristique à Roibon en Isère doit relever d'une décision nationale et que le national décide que oui, on le fait. Les arguments, vous risquez de dire le contraire de ce que vous dites ce soir la prochaine fois, non ? Qu'est-ce que tu aurais ?
Qui paie décide. C'est l'État qui paie, c'est l'État qui décide. C'est de l'argent des contribuables, c'est pas simplement l'argent des contribuables nantais, en l'occurrence, c'était quand même des sommes énormes, et c'est l'État qui paye. Donc c'est à l'État de décider, en effet. Et par ailleurs, il y a une politique d'aménagement du territoire qui doit être assumée par l'État central. Il s'agit effectivement de faire en sorte qu'il y ait une péréquation entre les régions, que certaines régions ne croisent pas au détriment de leur environnement, parce que c'est ce qu'on observe très précisément aujourd'hui à travers la France. Il y a des métropoles bien connectées à la mondialisation qui se développent très rapidement. Et autour, vous avez des no man's land. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis et c'est ce qui fait la victoire de Donald Trump en particulier. Donc il faut absolument éviter qu'on continue dans cette direction, à savoir quelques métropoles très bien reliées entre elles à tout point de vue, sur le plan du numérique comme sur le plan de la mobilité physique. Et faire en sorte que ces métropoles irriguent leur territoire environnant, qu'on ne se retrouve pas comme c'est le cas avec Chicago aux États-Unis, dont l'État est totalement vide à côté de la ville.
Mais est-ce que plutôt que de se placer du côté de celui ou de ceux qui prennent la décision, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se placer du côté de ceux qui vont vivre avec les décisions, c'est-à-dire penser la décision comme étant la plus légitime possible? Est-ce que ce n'est pas ça qui doit conduire justement la réflexion, plutôt que de se dire « non, c'est à l'État de le faire, c'est à la région, c'est au département » Brice Couturier.
Ce dont je voudrais être vraiment sûr, je vais vous dire, dans le cadre de cet aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est que le poids respectif de Nicolas Hulot n'a pas été jugé supérieur au poids respectif de Jean-Yves Le Drian. J'espère qu'on est sorti de la vieille politique.
Hulot était contre,
Le Drian était à fond pour, et Nicolas Hulot a mis sa démission dans la balance. Or, Nicolas Hulot est une des meilleures prises de ce gouvernement, puisqu'il avait été sollicité par Jacques Chirac déjà, puis par Nicolas Sarkozy, puis par François Hollande pour participer à un gouvernement, et qu'à ces trois-là, il avait dit non. À celui-ci, il a dit oui. Donc effectivement, cette carte est absolument maîtresse dans les mains du gouvernement actuel. Donc je voudrais vraiment être sûr qu'il ne s'agit pas de politique politicienne, que ce n'est pas parce que Nicolas Hulot fait plus peur que Jean-Yves Le Drian que l'aéroport de Nantes n'aura pas lieu. J'aimerais vraiment être sûr de ce que je viens de dire.
Lancelin.
Non, mais il est certain que la crédibilité de Nicolas Hulot était engagée dans cette affaire. Je ne vois pas comment il aurait, après déjà tout ce qu'il a avalé, comment il aurait pu rester dans ce gouvernement s'ils y étaient allés en force. Là où je suis d'accord, c'est une décision extrêmement politique qui vient d'être prise. Pour moi, c'est pas simplement un ajustement local, une décision d'aménagement du territoire. C'est quand même un symbole extrêmement fort. Et d'une certaine façon, et c'est un encouragement, pour toutes sortes de luttes, pas seulement écologiques, parce que d'une certaine façon, c'est quand même le premier recul de ce gouvernement par rapport à ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron pendant la campagne. Il est revenu de très nombreuses fois sur cette affaire Notre-Dame-des-Landes avec une parole très forte. À chaque fois, il a dit il y a eu un vote, il faut le faire respecter. Et de la même façon, Manuel Valls avant lui avait dit la démocratie a parlé, etc. Toutes les paroles politiques s'étaient exprimées à ce sujet, et Macron lui-même s'était engagé pendant la campagne. Donc c'est quand même un événement absolument politique, très important. Je ne pense pas que ce soit simplement politicien. Je pense qu'Édouard Philippe, qui est quelqu'un de raisonnable, avait très peur d'avoir du sang sur les mains aussi dans cette affaire. Ça a été dit, ça a été écrit. Voilà. Et personnellement, oui, moi, j'y vois plutôt un encouragement à ne pas céder sur ce qui compte vraiment face à ce rouleau compresseur gouvernemental qui depuis 6 mois... avance sur le pays.
On peut aussi voir une forme d'encouragement justement à ce que le gouvernement décide et tranche davantage sur un certain nombre de dossiers, pas forcément toujours dans le sens que souhaitent ceux qui mènent ces luttes environnementales, Lancelin.
Ben oui, non, mais c'est vrai que je pense que c'est une décision qui a surpris en bien certains à gauche, parce que bon, ben voilà, c'est un gouvernement qui commençait sur tous les sujets, hein, que ce soit la loi renseignement ou l'économie, à avoir une coloration libérale, autoritaire très affirmée. Donc on parlait de rapprochement d'unités de police très importantes dans la région, etc. Donc il y avait quand même...
L'évacuation de la ZAD aura lieu, vous ne faites pas d'illusions. Hein,
ça a l'air de vous réjouir.
Oui, parce que moi je ne pense pas du tout que les minorités
puissent
imposer leurs lois aux majorités et aux élus. Ça, je pense que effectivement, ça serait une très mauvaise chose si l'administration était apportée qu'une minorité de 350 personnes qui occupent illégalement des terrains peuvent faire reculer l'État de droit. Ça serait dramatique. Ça pas lieu, croyez-moi.
Vous savez, écoutez, vous êtes en lien avec le ministère de l'Intérieur, apparemment.
Non, ça n'est pas fait
pour me surprendre.
C'est très public.
Mais vous savez, les minorités agissantes ont parfois raison dans l'histoire. Et parfois, ce sont elles qui, au contraire, appréhendent le mieux le futur souhaitable pour un pays. Et on en a de nombreux exemples.
Sylvain Bourmont, est-ce qu'en tout cas on peut dire que cette décision qui a été prise donc avant-hier, ça marque, on ne va pas forcément parler d'un tournant dans le quinquennat, mais en tout cas ça sera un moment marquant de ce quinquennat, à commencer par celui qui l'exerce, c'est-à-dire Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron.
Trop tôt pour le dire, moi j'ai plutôt envie d'insister sur la dimension pragmatique de la décision, plutôt que sur son aspect politique. Je crois que tout examen rationnel du dossier poussait à cette décision-là, plutôt qu'à la décision inverse. Et à un moment, on peut aussi se dire que la machine administrative, étatique, fonctionne suffisamment bien pour préparer le dossier de façon à ce que le pouvoir politique tranche pour la solution la plus rationnelle, la meilleure, pour l'intérêt général. Voilà. Et moi, c'est plutôt à travers ce prisme-là que j'ai envie de voir les choses s'agissant de cette question, de ce dossier en particulier. Évidemment, il y a une dimension, il y a une dimension politique. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de réfléchir aux raisons qui ont fait que la prise de décision, on ne la connaît pas vraiment très bien. Et j'espère qu'il y aura des analyses de la prise de décision, de la politique publique, de cette crise, au fond, de cette histoire de 30 ans que des sociologues de la politique travaillent sur les archives et essayent de comprendre toute cette séquence. Parce que, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu prendre une décision rationnelle avant, beaucoup plus tôt? Je pense que ça a à voir avec à la fois ce qu'on disait sur le temps long de l'évolution des questions environnementales, ça a à voir avec l'enchevêtrement compliqué des niveaux de pouvoir en France, c'est-à-dire que quand on dit décentralisation qui commence au début des années 80, on dit une chose, mais on oublie la deuxième, qui est décentralisation. Certes, mais pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, imbrication du niveau politique local et du niveau politique national, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On n'aurait pas eu la même situation dans des pays dans lesquels les élus locaux ne sont pas des élus nationaux, dans lesquels les cumuls des mandats entre mandat local et mandat national sont rendus impossibles. Là, on était au cœur de cette situation spécifiquement française, où vous aviez l'élu local le plus important qui était même devenu Premier ministre. Donc, vous voyez que... voilà. Et ça, je pense que la page, peut-être, est en train de se tourner de ce point de vue-là.
C'est-à-dire à la question que vous posez, Sylvain Bourmeau, le gouvernement, la majorité, répondent en disant eh ben, ce qui a changé, c'est qu'avec ce gouvernement, on gouverne. Et sachant que gouverner, comme le titre de l'émission de ce soir, c'est choisir, ben là, voilà, on a véritablement tranché. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication? C'est-à-dire que, à contrario, les précédents gouvernements étaient incapables, justement, de prendre des décisions un peu fermes.
Oui, mais je n'ai pas l'explication. Moi, j'aimerais, c'est pour ça que je disais, j'aimerais lire ces travaux. C'est pourquoi, alors que tout était réuni, puisque le, encore une fois, celui qui défendait le projet était Premier ministre, pourquoi il n'a pas pu mettre en œuvre la décision dont il rêvait à ce poste-là de responsabilité et de pouvoir? Je ne sais pas répondre à cette question personnellement, mais elle m'intéresse.
Brice Couturier va peut-être savoir.
Moi, simplement, ce que je sais, c'est que cette question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes était très typique parce que c'était une de ces questions qui transcendait la droite et la gauche depuis le début. C'est pour ça que je trouve très malvenu aujourd'hui de voir l'ensemble des élus et responsables des Républicains, LR, dire que c'est un déni de démocratie, que c'est un recul de l'État de droit, etc. Que ne l'ont-ils fait plus tôt s'ils pensent que c'était si indispensable? Par ailleurs, j'entends Aude Lancelin dire que la gauche se réjouit. Non, elle ne se réjouit pas. C'est les insoumis qui se réjouissent. Mais le Parti socialiste ne se réjouit pas du tout par la voix du président de son groupe parlementaire.
Les écologistes
à l'Assemblée.
Aussi.
Les écologistes n'existent plus. Excusez-moi. Les écologistes n'existent plus. Il n'y en a plus un seul à l'Assemblée nationale. Parlons juste, pas des fantômes. Ils ont disparu.
Pour mon information personnelle, elle est où la gauche pour vous actuellement,
par exemple,
dans le paysage?
Moi, il me semble que le Parti socialiste fait partie de la gauche. Je sais bien que pour vous, c'est probablement là. Ah bon, c'est pas votre. Vous pensez que ça commence avec qui la gauche exactement?
Non, mais quel parti? Vous savez que le Parti socialiste a littéralement implosé. Vous savez que
il y a un groupe à l'Assemblée nationale et ils ont plus de députés que ceux de la France insoumise. Vous avez remarqué?
Et il y aura bientôt un nouveau premier secrétaire.
Il n'y a pas que la France insoumise à gauche. Il y a d'autres partis, il y a d'autres mouvements. La France insoumise n'a pas le monopole de la gauche. Or, cette gauche socialiste à l'Assemblée nationale n'est pas réjouie du tout. Pas seulement parce qu'un grand nombre d'élus socialistes soutenaient de manière très, très profonde de cet aéroport néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo-néo- était très attaché et qu'il en fait savoir à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc il ne faut pas prendre les écologistes comme étant la gauche en France. Les écologistes, c'est pas grand-chose.
Ça montre le sens politique de ce qui reste du PS, pardonnez-moi. Mais ne trouver pour s'opposer à Macron, que la seule bonne décision qu'il ait prise et la plus forte symboliquement, c'est tout de même un peu navrant de la part
de ce parti en décomposition. Que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, ça me fait grand plaisir.
La décision la plus forte symboliquement,
si je peux vous
en tout cas,
ça, ce soir.
La plus forte symboliquement, ça, vous pourriez être d'accord avec ça, justement, Brice Couturier, s'agissant de cette décision, depuis que Emmanuel Macron est président de la République.
Avec quoi je devrais être d'accord ?
Avec le fait que ce soit la décision la plus forte symboliquement, comme vient de le dire
Lancelin. C'est certainement pas la décision la plus forte symboliquement. C'est la première qui réjouit Aude Lancelin et je suis ravi de savoir qu'il y a enfin une décision de Macron.
C'est la seule qui ne soit pas ouvertement néolibérale et réactionnaire. Voilà, si on veut être très précis.
Elle est parfaitement libérale, croyez-moi. Vous verrez la suite.
En quoi, en tout cas, ce dossier, on est presque au terme de la discussion, doit servir de leçon, selon vous, pour les prochaines décision du même type pour les grands dossiers d'aménagement. Est-ce qu'il faut repenser justement ces grands dossiers en se disant ben voilà, ça n'est pas ce qui correspond aujourd'hui aux attentes et aux besoins de la population et aux besoins du pays, Sylvain Bourmeau ?
Mais peut-être créer un commissariat général au plan, ou je ne sais pas, la data ou quelque chose comme ça, avoir des instruments de prospective, des outils qui nous permettent de nous projeter à horizon 50 ans, 30 ans, pour prendre des décisions en amont, essayer de comprendre comment, voilà, et le faire au niveau central national, et peut-être même au niveau européen.
Parce on avait que un je organisme pense que qui s'appelait France Stratégie, ça existe.
Peut-être qu'il faudrait inventer une datar européenne ou un commissariat général au plan européen, peut-être voilà, tout en faisant vivre la démocratie locale à propos d'équipements locaux qui doivent être débattus et là on a aussi beaucoup de travail parce qu'il s'agit de, c'est bien beau de décréter la décentralisation, mais il faut aussi s'occuper d'organiser des espaces publics locaux démocratiques, c'est-à-dire des espaces publics locaux par exemple qui aient des médias indépendants qui puissent organiser la vie locale politique autrement que de la manière dont elle s'est faite depuis les lois de fer de 1982, parce que il suffit de regarder le film, très beau film sur le président, sur Georges Frêche, pour comprendre ce dont je parle.
Lancelin.
Alors, je n'ai pas d'avis sur la décentralisation en 1982. Non,
mais en tout cas, sur le caractère exemplaire et de ce dossier et de la décision qui a été prise. C'est-à-dire, elle doit servir aussi à quoi? En dehors
non, de... exemplaire, on ne peut pas dire ça. Parce que comme le disait tout à l'heure Sylvain, on n'a pas du tout les dessous en réalité de cette décision.
Exemplaire en ce sens qu'elle pourrait servir d'exemple.
Oui, mais encore une fois, bon, j'y vois quelque chose de profondément tactique et politique. Donc, c'est un dossier totalement hors norme. On ne peut pas, qui a plusieurs dizaines d'années d'historique, on ne peut pas préjuger de l'avenir à partir de ça.
Vous avez démarré l'émission, Brice Couturier, en évoquant un grand projet d'aménagement en Chine, hein, si ma mémoire est bonne.
Sûr.
Ma mémoire qui est assez immédiate, c'était il y a moins de 40 minutes. Est-ce que ça veut dire que vous craignez que ce type de décision sur Notre-Dame-des-Landes ait aussi un impact sur d'autres grands projets d'aménagement sur le territoire français ?
Alors, si vous voulez dire qu'on attend nos 350 zadistes dans d'autres endroits comme l'enfouissement des déchets nucléaires, effectivement, ça serait dramatique. Mais j'ai bon espoir, le ministère de l'Intérieur saura y mettre bon ordre comme il s'y est engagé.
Et on verra ça puisque les occupants de cette zone à défendre ont jusqu'à la fin de la trêve hivernale, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mars pour quitter les lieux.
Et ils occupent illégalement.
Et on verra si le gouvernement choisit la manière douce ou la manière forte pour faire partir les récalcitrants, si jamais il en reste. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Brice Couturier, Aude Lancelin et Sylvain Bourmeau. Discussion que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur la page du Grain à Moudre à France, sur franceculture.fr. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Tricot. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Julie Garraud, Stéphane Desmonts et Tahar Bouklifa.